Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Quand on prononce le nom d'Hérode Antipas, on éprouve un léger frisson au regard de l'histoire qui a mis cet homme au pouvoir de la Palestine 3 ans après la naissance de Jésus. En effet, ce n'est pas cet Hérode-là qui a présidé au recensement, qui a amené Marie et Joseph à venir se faire recenser à Bethléem, ni qui a reçu les mages, ni qui a ordonné l'épouvantable martyre des saints innocents. Celui-là, c'est Hérode le Grand. C'est le père d'Hérode Antipas. Et dans l'Évangile, nous le rencontrons 30 ans après, lors de la prédication de Jean-Baptiste. Pour nous, chrétiens, c'est la période de l'Avent, avant l'avènement de Jésus. Et c'est ce sujet de Jean-Baptiste devant Hérode que nous avons choisi avec mon invité de ce jour, Anne-Marie Aïtsé. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Marie-Madeleine.
Merci d'être là, fidèle. Alors, et merci aussi d'avoir planché sur Hérode Antipas,
oui.
Car c'est un sacré bonhomme,
voilà.
Si on peut dire. Et nous allons découvrir, je pense, avec vous, beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Alors, c'est une œuvre de Charles Lebrun, une gravure. Charles Lebrun étant un des grands peintres du roi Louis XIV et ornemaniste également. Donc, dans cette œuvre, Jean-Baptiste est en grande conversation avec Hérode. Alors, si vous voulez nous écouter, chers auditeurs, avec la gravure sous les yeux, vous tapez Lebrun, L-E plus loin, B-R-U-N, Jean-Baptiste devant Hérode. Et vous aurez le site du musée d'art et d'histoire de Genève, où se trouve cette gravure en noir et blanc. Alors, Anne-Marie Aïtsé, parlez-nous d'Hérode Antipas.
Alors, Hérode Antipas, c'était en effet le fils d'Hérode le Grand, qui en avait plusieurs. Et à la mort d'Hérode le Grand en 4 après Jésus-Christ, ses territoires ont été divisés entre ses fils. Et donc, Hérode Antipas, le mot Antipas vient du père d'Hérode le Grand, qui s'appelait Antipater, hein, et qui avait succédé au roi Asmodéen, les rois de Judée. Donc, Hérode Antipas va hériter de la Galilée. Et il va être donc désigné comme tétrarque de Galilée. Il avait la Galilée et la Pérée. Alors, la Galilée, bon, c'est à côté du lac de Tibériade, au nord de la Palestine. Là, c'est Nazareth.
Oui.
Voilà, c'est cette région.
Nazareth, Capernaum.
Voilà. Oui. Il a d'ailleurs, c'est Hérode Antipas qui a construit la ville de Tibériade. Et qui est en honneur de l'empereur Tibère, hein, puisque c'était l'empereur de cette époque-là, dans la ville de Tibériade, auprès du lac de Tibériade. Et il a aussi fait, sans être le grand constructeur qu'avait été son père, qui avait reconstruit le temple, etc., il avait aussi reconstruit la ville de Séphoris, qui était une ville romaine en Galilée, dont on parle peu, mais dont, depuis quelque temps, les historiens pensent que Joseph et Jésus, en tant que charpentiers, ont pu travailler à Séphoris.
Ah oui,
voilà.
Intéressant.
Voilà. Donc Hérode Antipas, c'était tétrarque de Galilée. Bon, c'était un homme assez ambitieux quand même, et habile politique, parce qu'il est resté pendant plus de 30 ans tétrarque de Galilée. Ce qui, à l'époque, n'était quand même pas facile.
C'est un record.
Voilà, il fallait concilier avec les Romains. Bon, il s'est appuyé sur les Romains, comme son père avait fait, puisque quand même, il faut dire que tous ces petits potentats, ils étaient quand même sous protectorat romain.
Oui, et sinon, ils n'auraient pas tenu.
Exactement. Oui. Et la Judée était d'ailleurs, Jérusalem était administrée directement par les Romains. Donc, il avait un frère, Philippe, qui avait des territoires qui étaient de l'autre côté du Jourdain, de côté de la Syrie, et il aurait bien aimé avoir ces territoires. Et il était monté à Rome voir l'empereur Tibère pour essayer de récupérer l'héritage de son frère Philippe qui était décédé.
Alors ce frère Philippe, excusez-moi de vous interrompre, ce frère Philippe s'appelait aussi Hérode.
Oui, mais Hérode, ils s'appellent tous Hérode.
Hérode Boétos.
Voilà, alors pour voilà. s'y retrouver dans les Hérodes,
oui,
c'est pas
mais
très facile.
Voilà,
hein.
dit Philippe.
Voilà, voilà. voilà.
Donc, il faut...
Chacun un surnom, oui, mais
c'est très
à
compliqué.
La base, oui, c'est très compliqué. oui, et alors justement, il était monté sur Rome, il s'était arrêté chez un de ses frères, je ne sais pas lequel, notre Hérode.
Ils sont tous demi-frères, parce que oui. Hérode le Grand a eu 4 femmes.
Voilà. Donc, c'est la polygamie, voilà, donc oui, il avait oui, oui. en effet des fils de plusieurs femmes. Et Hérode va vouloir, pour se faire bien voir de Tibère et pour bien se placer, ou à moins qu'il soit aussi tombé amoureux, épouser la femme de cet
Hérode, Philippe.
Voilà, qui s'appelait Hérodiade.
Oui, et il n'avait pas d'enfant.
Voilà.
Et il n'y avait pas de descendance,
voilà,
là.
Et qui était descendante, elle, des rois Asmodéens.
Oui, oui.
Donc, c'était intéressant. Bon, et cette femme a été d'accord, etc. Mais, gros problème, double adultère.
Et oui.
Parce que d'une part, Hérode, il était marié. Il était marié avec une princesse, la fille du roi de Pétra.
Pétra. Oui.
Oui, Arétas IV, Pasiphae.
Une nabatéenne.
Une nabatéenne. Il y avait des accords entre ce royaume et la Galilée. Il était marié. Elle, donc, il fallait répudier sa femme. Et quant à elle, pour se remarier, il aurait fallu qu'elle soit veuve.
Et oui.
Or, son mari, il n'était pas mort.
Il était toujours vivant.
Et voilà. Donc, double adultère. Et c'est cela que Jean-Baptiste va reprocher à Hérode. Et c'est ce qu'on va voir dans la gravure. Et on peut aussi prendre peut-être l'évangile où il est parlé de cet épisode. Hein. C'est l'évangile de Marc, au chapitre 6. On dit comment Hérode a fait exécuter Jean-Baptiste. Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, à force d'être critiqué par Jean le Baptiste, Hérode avait accepté de...
Oui, sous l'influence d'Hérodiade.
Sous l'influence d'Hérodiade, de mettre oui. Jean-Baptiste en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Et Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mettre à mort. Mais elle n'y arrivait pas. Parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé et pourtant, il aimait l'entendre. On voit toute l'ambiguïté là. Hein
et oui. Et oui.
Hérode, bon, il sait quand même qu'il est dans une situation illégale. Bon, et quelque part, il accepte les critiques de Jean et en même oui. temps, il ne peut pas changer de situation.
Mais il va se piéger lui-même.
Il va se piéger lui-même, on le verra après. Mais là, pour le moment, nous avons exactement la gravure. Alors, la gravure, c'est une gravure de Guillaume Vallée, un graveur parisien contemporain donc, de Charles Lebrun, de grande qualité d'ailleurs.
Oui.
Il était à Rome, il était membre de l'Académie de peinture. Donc, on a une œuvre de qualité là devant
oui.
le nez.
Oui.
Vraiment très bien. Alors, bon, ce qu'on voit, c'est sur le côté gauche de la gravure, on voit Hérode. Le trône d'Hérode. Hérode est assis sur un trône. Et, il s'agit sans doute d'une espèce de terrasse découverte
oui.
extérieure avec des colonnes, une plateforme.
Une estrada de
une
marche.
Une estrada
oui.
de marche, voilà. Une espèce de trône tendu avec des tentures.
Oui, on dirait un canapé, un sofa.
Comme un gros, voilà. grand sofa. Il est assis oui. sur un grand sofa. À côté avec Hérodiade, qui est un peu comme allongée, un peu comme à la romaine. Hein. C'est
oui, oui.
présenté comme à la romaine. Hérode, il est avec une grande toge, il est habillé un peu comme un roi. Il a une reine,
il a une couronne.
Une couronne sur la tête. Une couronne sur la tête. C'est un homme dans la force de l'âge, visage classique, n'est-ce pas, nez droit. Voilà, à côté de lui, il y a Hérodiade. Alors, Hérodiade, elle est représentée comme une jeune femme.
Oui, comme une petite fille.
Moi, je pense...
Je me suis demandé si c'était pas Salomé.
Et oui, on pourrait se poser la question, mais...
Parce qu'elle met le doigt dans sa bouche,
oui.
comme un enfant.
Oui, elle est certes... si c'est Hérodiade, elle est beaucoup plus jeune qu'elle n'était.
Oui.
Parce qu'elle a, un diadème sur la tête, les cheveux relevés. Elle penche un peu la tête... Oui. Elle a un geste de réflexion en mettant le doigt devant sa bouche.
Oui.
Et elle est un peu allongée et complètement appuyée sur Hérode, d'ailleurs.
Oui,
hein.
Oui.
Elle est appuyée sur Hérode. Et en face d'eux, ben, il y a Jean le Baptiste qui est tout droit.
Debout.
Debout. Oui. Hein, elle a un pied sur la marche.
Oui.
Qui, c'est un homme assez musculeux, dans la force de l'âge également, avec une grande barbe. Il a un pagne autour des reins, les pieds nus.
Oui, c'est l'époque du XVIIe siècle.
Voilà.
Hein,
Il est appuyé sur un bâton.
Pour le peintre.
Et il a une peau de bête qui le recouvre à peu près. Voilà, donc une facture très classique d'ailleurs,
très, hein,
très, très classique de cette gravure et de ce dessin. Et là, Jean le Baptiste, il regarde Hérode et il tend la main. Il montre de la main Hérodiade ou Hérode. Et c'est là qu'il lui dit, tu n'as pas le droit de, prendre, enfin, de vivre avec la femme de ton frère. Et Hérode a un geste de défense. Il lève la main,
oui,
comme s'il voulait arrêter les imprécations de Jean le Baptiste.
Oui, oui. Puis un peu désinvolte, quand, voilà, en disant tant pis.
Voilà, hein, ça, après tout, ça ne fait, oui, rien, je ne, voilà, peux pas faire autrement. Voilà, c'est ça. Il a un geste à l'arrière de défense. Et quant à Hérodiade, on dit, bon, elle baisse un peu la tête, comme si elle était un peu honteuse. Mais je pense qu'elle est plutôt en train de réfléchir à comment
à
se débarrasser de Jean le Baptiste. Hein, en se disant, bon, ça suffit, cette histoire, bon, on va voir. Et en effet, par la suite, elle est arrivée lors d'un banquet à piéger Hérode par la danse de Salomé, qui avait beaucoup plu à Hérode. Et lui, il lui avait dit devant tous ses courtisans, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Ça, ça prouve un peu le côté fanfaron, n'est-ce pas, du personnage, ou du moins de ça, se croire
tout puissant.
Oui. Le résultat, c'est que, poussé par Hérodiade, Salomé a demandé « Je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. » Hérode a été piégé, puisqu'il avait promis de faire ce que voudrait la jeune fille devant tout le monde. Et donc, c'est comme ça que Jean-Baptiste a été décapité.
Oui, alors que Hérode ne tenait pas à la mort de Jean-Baptiste.
Exactement, ne l'aurait certainement pas mis à mort Jean-Baptiste. Et alors, derrière la scène, là, qui présente donc Hérode, Hérodiade et Jean-Baptiste au premier rang, il y a des soldats, tout à fait, au fond, c'est la garde d'Hérode, je suppose. Hein.
Oui.
Voilà, avec des lances, avec des casques. Il y a deux personnages ou trois qui regardent la scène.
Oui.
Ce sont des juifs,
oui,
je pense, habillés avec des barbes, avec des...
Est-ce que ce seraient des fidèles de Jean-Baptiste, des Esséniens?
Ah, qui auraient suivi,
suivi Jean-Baptiste.
Ça, c'est possible. Enfin, ils sont là. Il y en a un qui est accoudé à un mur et qui observe la scène avec,
oui,
attention. Il y en a un autre qui s'interroge un petit peu.
Oui, qui regarde Hérode.
Qui regarde Hérode.
Qu'est-ce qu'il a dans la tête?
Voilà, hein, et qui paraît un peu surprise, se demandant ce qui se passe. Au fond, on distingue un temple romain.
Oui.
Arrondi.
Oui, comme un panthéon.
Voilà. Donc, c'est une gravure de... C'est une eau-forte, hein?
Oui.
C'est-à-dire, l'eau-forte, c'est une gravure qui a été plongée, enfin...
Sur cuivre.
Sur cuivre, et plongée dans de l'acide nitrique.
Voilà.
Qui s'appelait l'eau-forte à l'époque.
C'est ça.
Voilà. Pour la décaper, et ensuite, elle est imprimée.
C'est ça.
Et Charles Lebrun a fait beaucoup de gravures. Hein, beaucoup de,
oui,
les tableaux de Charles Lebrun ont été faits en gravure. Et les gravures au XVIIe, ça circulait partout. Et ça fut connaître beaucoup, beaucoup les tableaux.
Et oui.
En fait.
Et oui. Et puis c'était aussi pour l'instruction des gens. Oui. Hein, l'instruction religieuse en particulier.
Et alors, est-ce que c'est un tableau qui aurait été perdu de Charles Lebrun? Est-ce que c'est un dessin qui avait été fait par lui que pour la gravure, ce qui pouvait arriver?
Oui.
Donc, on ne sait pas. Et ça se trouve dans le musée
de Genève.
De Genève,
oui. Voilà. D'art et d'histoire.
D'art et d'histoire de Genève. Et elle est assez grande, hein, cette gravure. J'avais des dimensions, maintenant je ne sais plus. Mais c'est quand même assez imposant. Ce n'était pas des petites gravures en miniature. Hein, ça.
Oui. Donc, on retrouve Hérode Antipas au procès de Jésus.
Alors, on le trouve au procès de Jésus, mais on le retrouve après quand même. On le retrouve aussi dans l'évangile de Luc, lorsqu'on se pose des questions, qui est Jésus? Parce que Jean-Baptiste meurt, c'est bien gentil, mais quelqu'un d'autre vient. Quelqu'un d'autre vient Et c'est Jésus donc, qui a d'ailleurs recruté plus ou moins des disciples de Jean le Baptiste. Hein, et qui prêche, qui guérit, et tout ça revient aux oreilles d'Hérode, qui quand même était assez bien informé sur ce qui se passait sur son territoire. Et donc, il ne savait que penser, le prince de Galilée. Et on le disait, alors certains disaient que c'était Jean le Baptiste, Jésus était Jean le Baptiste ressuscité des morts. D'autres que c'était un prophète, que c'était Isaïe. Enfin, il y avait plein de théories sur Jésus. Et Hérode disait, mais Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends tellement parler? Et il cherchait à le voir. Ben, c'est pareil, je me suis dit, bon, c'est un nouveau Jean-Baptiste, on voit toujours l'intérêt quand même qu'il avait pour les prophètes, ou du moins la religion, ou le merveilleux, je n'en sais rien.
On dit qu'André, l'apôtre de Jésus, le frère de Pierre, aurait fait partie des disciples de Jean-Baptiste.
Oui.
On dit.
Oui, oui. Voilà. Oui, oui, mais c'est sûr que quand ils se sont trouvés un peu orphelins, les, sans doute, les disciples de Jean-Baptiste.
Et, oui.
C'est sûr que Jésus, qui était un cousin d'ailleurs de Jean-Baptiste et qui avait été baptisé par lui, était la personne sur laquelle il pouvait, en effet, avec laquelle il pouvait se retrouver. Donc, il y a aussi, donc, il va le voir, Hérode, à Jésus. Il va le voir lors de son arrestation, justement.
Oui.
Il va le voir. Parce que...
C'est-à-dire que Ponce Pilate le renvoie à Hérode.
Il renvoie Jésus devant Hérode parce que Hérode était intendant du temple. Et s'il n'avait pas récupéré les terres de Philippe, là, de son demi-frère, il avait réussi à se faire nommer par Tibère. Il y a surtout ce côté un peu intrigant d'Hérode et de vouloir se placer. Ça ressort très bien de l'histoire, je crois. Donc, il était arrivé à se faire nommer intendant du temple, c'est-à-dire qu'il avait un peu la mainmise, je crois, sur le Sanhédrin.
Sur les jugements du Sanhédrin.
Sur les jugements du Sanhédrin. Il était un peu le référent religieux des Romains.
Bon, et sur la garde des vêtements sacerdotaux du grand prêtre aussi. C'était important pour les Juifs.
Oui, je crois, oui.
Parce qu'après, il y a eu une histoire avec ça... avec l'éviction d'Hérode.
Oui, et puis aussi de Caïphe.
Voilà, et les Romains s'en sont mêlés, là. Ouais.
Donc, il était donc présent. Et puis là, il était présent à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'était la Pâque. Donc, il était venu. Et lorsque Pilate a su que Jésus était galiléen, il s'est dit la bonne aubaine, parce qu'il ne savait quand même pas trop que faire de Jésus, Pilate, il faut dire ce qui est.
Oui. Et lui non plus ne voulait pas sa mort.
Voilà, exactement. Et puis, pour lui, Jésus n'était coupable de rien. Au niveau de la loi romaine, il n'était coupable de rien. C'était un problème religieux qui regardait les Juifs. Et alors, il était assez ennuyé. Sachant qu'il était galiléen, il s'est dit, la bonne nouvelle, je vais l'envoyer à Pilate, à Hérode. Et donc, il l'a envoyé à Hérode. Apprenant que Jésus était galiléen, Pilate demanda à l'homme s'il était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait aussi à Jérusalem ce jour-là. Et à la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Je lis le texte de Luc 23, chapitre 23, 3-14. Depuis longtemps, il désirait le voir. On retrouve ce qu'on avait dit plus tôt. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait lui voir faire un miracle. Voilà ce qui intéresse Hérode. Il a entendu dire
en sa faveur, bien sûr,
que Jésus guérit des personnes, qu'il délivre des démons, et c'est ça qui l'intéresse. Hérode lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Jésus, il n'est pas là, ce n'est pas un mage, ce n'est pas un devin, il n'est pas là pour faire des tours, il ne répond pas à Hérode. Alors Hérode doit être déçu, je suppose. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là, ils l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Donc, il va prendre le parti finalement, en voyant que Jésus ne répond pas.
Parce qu'il est déçu.
Voilà, il est déçu, il prend le parti carrément des accusateurs de Jésus. Et il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Bon, le fameux manteau rouge. Que l'on trouve parce que Jésus se prétendait roi, donc par dérision, on l'a affublé d'un manteau rouge. Voilà les trois passages de l'évangile où on parle d'Hérode par rapport, oui. Par rapport à Jésus. Voilà. Et donc ensuite, bon, si on continue l'histoire, Jésus va être crucifié. Je pense que ça n'a pas beaucoup gêné Hérode, qui a dû le considérer comme un fou.
Oui.
Ou comme quelqu'un d'intéressant par rapport à Jean le Baptiste.
La crucifixion, c'était voilà. Systématique. Hein. Oui. C'était
donc,
c'était courant.
Et il a continué sa vie de tétrarque de Galilée, mais il finit par avoir des ennuis, parce qu'on peut dire que son mariage, quand même, avec Hérodiade ne lui a pas apporté que du bien. Hein. Le roi de Pétra, dont Arétas IV, lui a déclaré la guerre.
Et oui.
Parce que sa fille avait été renvoyée.
Elle oui,
était
revenue répudiée.
À sa cour, répudiée. Et donc, il avait mal pris la chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il a battu sévèrement les armées d'Hérode. Il a même pris une ville qui s'appelait Gamala. Et donc Hérode a eu ses déconvenues aussi. Et puis, il n'était pas si bien vu que ça des Romains non plus. Hein, qu'ils le considéraient sans doute un peu trop fiable.
Ambitieux, oui, voilà.
Pas fiable,
oui.
Je pense. Oui. Alors déjà, Tibère n'avait pas confiance en lui. Tibère meurt. Il est remplacé par Caligula.
Oui.
Et là, c'est très, très ennuyeux pour Hérode.
Oui.
Parce que Caligula est en fait l'ami d'Agrippa, qui était aussi un prince juif, un frère d'Hérodiade,
oui,
et qui avait été élevé à Rome, et qui était en même temps que Caligula.
Oui, et était ami de Caligula.
Il était ami de Caligula.
Oui.
Et donc
il valait mieux l'être ami, voilà. D'ailleurs.
Et de toute façon, il valait mieux être ami des empereurs. Donc, résultat, c'est Agrippa qui s'est placé, au niveau de la Judée, au niveau de... Et c'est Hérode qui en a fait les frais. Alors, Hérode a essayé d'avoir les bienfaits du nouvel empereur. N'empêche qu'Agrippa, au contraire, a mal parlé de lui en disant qu'il faisait un complot, qu'il avait des armes. Bon, ce n'était pas tout à fait vrai. N'empêche que Hérode, a été destitué des tétrarques de Galilée.
Oui,
il a perdu la Galilée.
Oui.
Il a été exilé. C'est Agrippa qui a récupéré ses territoires,
terres.
Et il a donc été exilé. Et alors là, ses biens ont été confisqués. Hérodiade l'a suivi. Et c'est là aussi qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant pour nous.
Mmh.
Voilà, une petite découverte, mais peut-être certaines personnes le savent. Selon l'historien Flavius Joseph, qui a écrit l'histoire des Juifs, il a dit que le tétrarque de Galilée, Hérode, avait été exilé à Lugdunum, en Gaule.
Oui.
Alors, Lugdunum, c'est Lyon.
Oui.
Mais il parle aussi d'un Lugdunum près d'Hispanie, donc un Lugdunum près de l'Espagne. Et quelle est la ville romaine assez importante qui s'appelait Lugdunum et qui correspond à ce critère d'être près de l'Espagne? C'est la ville de Lugdunum Convenarum. Lugdunum des Convennes, ce qui a donné par la suite Comminges, c'est Saint-Bertrand de Comminges.
Eh oui, je pense que vous allez l'apprendre à beaucoup de gens.
Voilà. Et donc, Hérodiade et peut-être Salomé ont atterri, c'est le cas de dire, Saint-Bertrand de Comminges. La légende dit qu'on a vu arriver là-bas des personnes habillées à l'oriental, avec un grand faste, et qui avaient eu plusieurs femmes, un homme, enfin des serviteurs sans doute quand même. Et donc, une des femmes, alors est-ce Hérodiade, est-ce Salomé, aurait un soir d'hiver glissé sur un lac gelé et aurait eu la tête tranchée par la glace.
Oula !
Voilà la légende de Saint-Bertrand de Saint-Bertrand de Comminges. Voilà, donc on perd la trace d'Héros, on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort, il n'a pas dû mourir vers entre 40 et 50. Et donc, si vous allez à Saint-Bertrand de Comminges, et si vous visitez les ruines de la ville romaine, vous marcherez au même endroit qu'a marché Hérode, Hérodiade et peut-être Salomé.
Eh ben, but de promenade.
Voilà.
Ben, merci beaucoup Anne-Marie, Anne-Marie Aïtsé, je précise.
Merci à vous.
Parce que c'était très passionnant. Je remercie également Imanol, qui tenait toujours les manettes de la technique, de façon magistrale. Merci à vous tous qui écoutez cette émission, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio Présence Cahors, à la rubrique « Art sacré ». Donc les programmes continuent sur notre antenne. Bonne semaine, au revoir.
Au revoir à tous.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.